VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 en universel du jeudi 23 mai 2019. Claire Morin-Jobour et Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres.
Peter Mutharika vers une réélection au Malawi. Le chef de l'État sortant arrive en tête de la présidentielle selon des résultats portant sur les trois quarts des bureaux de vote.
Les Nations Unies nomment un coordinateur de l'intervention d'urgence contre Ebola en RDC. La maladie a fait plus de 1200 morts.
La Chine proteste auprès de Washington qui soupçonne la compagnie Huawei d'espionnage au profit de Pékin.
Les élections européennes ont démarré aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, des élections qui se tiendront jusqu'à dimanche.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
En Côte d'Ivoire, 18 personnes ont été interpellées à la suite des affrontements intercommunautaires qui ont fait 11 morts la semaine dernière à Béoumi, au centre du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur de Boaké, Brahman Kone. Une altercation entre un chauffeur de taxi Bruce Malenke et un conducteur de mototaxi Baoulé est à l'origine de ces violences qui ont dégénéré en bataille rangée. Il y a aussi eu 108 blessés et 300 déplacés selon le dernier bilan officiel.
Amnesty International dénonce le maintien en détention d'un militant au Niger. Selon l'organisation, Sadat Iliadan Malam fait l'objet d'une détention arbitraire depuis 13 mois. Il avait été arrêté en avril 2018 lors d'une manifestation contre les mesures d'austérité prévues dans la loi de finances. Au Niger, les manifestations contre la loi de finances 2018 ont entraîné l'arrestation de 26 activistes, dont certains sont toujours emprisonnés, selon Amnesty International.
Le chef de l'État sortant du Malawi, Peter Mutharika, est en tête de l'élection présidentielle, devançant de 5 points le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera, selon le décompte des trois quarts des bureaux de vote, Irénée Hermanongbo.
Peter Mutharika, qui brigue un second mandat de 5 ans, obtient 40,49% des suffrages devant Lazarus Chakwera à 35,44% selon les chiffres de la commission électorale publiée jeudi en début d'après-midi. Le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, avait pourtant affirmé mercredi soir être très largement en tête de la présidentielle organisée la veille selon un décompte partiel de son parti et avait accusé le camp du président sortant de vouloir frauder. La présidence de Peter Mutharika, 78 ans, a été marquée par un fort mécontentement populaire, alimenté par des pénuries de nourriture et des coupures d'électricité, et par un scandale de pots de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police. Son bilan économique est mitigé. La croissance a baissé d'environ 6 à 4% depuis 2014, mais le taux d'inflation a reculé de 23 à 9% selon le FMI. Sept candidats étaient en lice pour le scrutin de mardi. La société civile s'est réjouie du bon déroulement du scrutin. De nombreux incidents avaient émaillé les opérations lors des élections générales précédentes en 2014. Mais avant même la sortie du chef de l'opposition, analystes et commentateurs politiques ont dit redouter des tensions à l'approche de la proclamation des résultats.
Les Nations Unies ont nommé un coordinateur de l'intervention d'urgence contre l'épidémie d'Ebola en RDC. L'ONU voudrait entreprendre de nouveaux efforts dans la riposte. Nous faisons le point avec Eddie Isango.
C'est David Guesley, le représentant spécial adjoint du secrétaire général au sein de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, qui supervisera désormais la coordination des activités de soutien international à la lutte contre les virus Ebola dans ces pays. Il veillera à ce qu'un environnement favorable, en particulier sur le plan sécuritaire et politique, soit en place pour que la lutte contre les virus Ebola soit encore plus efficace, selon l'OMS. À Kinshasa, l'OMS a nommé le docteur Peter Garaf comme représentant spécial de la lutte contre cette épidémie. M. Grizzly souligne que la réponse d'Ebola fonctionne dans un environnement opérationnel d'une complexité sans précédent. L'insécurité des protestations politiques ont entraîné des perturbations périodiques dans nos efforts pour combattre la maladie, affirme-t-il dans un communiqué. L'épidémie qui sévit depuis août 2018 a déjà tué plus de 1200 personnes et touché plus de 1850 selon le ministère de la Santé. Des nouveaux cas sont signalés et la résistance de la population s'est aussi accrue.
Le groupe État islamique a revendiqué deux attaques dans l'est de la RDC, dans le territoire de Beni, où, selon des sources locales, une dizaine de personnes ont été enlevées jeudi dans le territoire de Beni. Ces attaques sont généralement attribuées par les autorités aux forces démocratiques alliées, ADF, des rebelles musulmans ougandais, présents dans la région depuis plus de 20 ans.
Au Rwanda, un chef rebelle soupçonné d'avoir lancé des attaques meurtrières dans le sud-ouest a plaidé coupable des accusations de terrorisme. Il a aussi reconnu travailler pour des gouvernements étrangers contre Kigali. Calixte Nsabimana, qui se fait appeler Sankara, le porte-parole du Front de Libération Nationale, le FLN, était accusé de formation d'un groupe armé irrégulier, complicité d'actes terroristes, prise d'otages, meurtre et pillage.
Un tribunal ougandais a bloqué ce jeudi une tentative du gouvernement de suspendre une quarantaine de journalistes pour leur couverture de l'arrestation du chanteur et député d'opposition Bobi Wine fin avril. Je connais les intérêts de sécurité nationale, mais la réglementation ne peut pas être utilisée pour piétiner les droits à la liberté et à l'information, a estimé le tribunal.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont donné aujourd'hui le coup d'envoi des élections européennes. L'élection dans ces deux pays devrait permettre de mesurer la montée en puissance des eurosceptiques. Des précisions avec John Hinden.
Plus de 400 millions d'électeurs voteront dans 28 pays pour élire 751 députés européens lors de ces élections qui se tiennent jusqu'à dimanche. Ce sera au tour vendredi de l'Irlande et de la République tchèque, la plupart des autres pays de l'Union européenne se prononçant dimanche. Un envol des mouvements nationalistes et populistes est attendu lors du scrutin. Un scrutin qui devrait faire perdre du terrain aux deux groupes les plus importants au Parlement européen, le Parti populaire européen, groupe de la droite pro-européenne, et le Parti socialiste européen. D'après les derniers sondages, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen devance celui du président Emmanuel Macron en France, tandis qu'en Italie, la Ligue de Matteo Salvini fait la course en tête avec un discours anti-Union européenne. Au Royaume-Uni, les Britanniques ont voté dans un climat plombé par le Brexit qui monopolise les débats politiques depuis le référendum de juin 2016. Faute d'être sorti de l'Union le 29 mars dernier, le Royaume-Uni a été contraint d'organiser ce scrutin d'autant plus surréaliste que les députés britanniques pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen. Aux Pays-Bas, l'on suivra également de près le Forum pour la démocratie, un parti eurosceptique, anti-immigration et climato-sceptique.
La guerre commerciale risque de faire dérailler la croissance mondiale. C'est l'avertissement que le Fonds monétaire international a lancé aujourd'hui aux États-Unis et à la Chine. Selon les FMI, ces tensions risquent de compromettre le rebond économique mondial attendu pour le second semestre de l'année en cours. Jacques Aristide.
La nouvelle escalade pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et perturber les chaînes de production d'après le FMI. Washington a imposé le 10 mai dernier des tarifs douaniers renforcés sur 200 milliards de biens en provenance de la Chine. En représailles, le géant asiatique compte augmenter des droits de douane sur 60 milliards de marchandises américaines à compter du 1er juin, ce qui a encore fait réagir le président américain qui a brandi la menace de tarifs douaniers additionnels. Donald Trump entend réduire drastiquement le déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Les deux parties sont toutefois convenues de poursuivre le dialogue, avec même une éventuelle rencontre entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping, fin juin lors du sommet du G20 au Japon. Mais ce jeudi, la crispation est toujours à son comble. Le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, accuse Huawei, numéro 2 mondial des smartphones, de mentir sur ses véritables liens avec les autorités chinoises qui, elles, dénoncent ce qu'elles appellent le harcèlement de Washington.
Nouveau combat dans le dernier bastion djihadiste dans le nord-ouest de la Syrie. Des raids aériens du régime ont tué 8 civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la province d'Idleb et des segments d'Hama, Alep et Latakié sont le théâtre depuis fin avril d'une recrudescence des violences.
L'Arabie saoudite a intercepté et détruit aujourd'hui un drone chargé d'explosifs en provenance du Yémen, ce qu'a déclaré la coalition anti-rebelle. Il s'agit de la troisième attaque contre l'aéroport de Najran en 72 heures, a indiqué la chaîne de télévision Al-Masira, contrôlée par les Houthis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et c'est Nanit Talanif qui nous présente la Minute Éco.
Société Générale Côte d'Ivoire va débloquer une enveloppe de 350 milliards de francs CFA sur 4 ans pour les petites et moyennes entreprises. La Tribune Afrique, qui publie l'information, indique que cette convention a pour but de favoriser l'émergence d'un tissu d'entreprises performantes et porter le pays vers une croissance économique. Les fonds permettront aux PME d'agrandir leurs entreprises et d'accroître leur capacité de production. La Société nationale camerounaise des hydrocarbures a entamé une opération de promotion de 9 blocs dans les bassins producteurs de Rio del Rey et Douala Kribi-Kompo, situés au sud-ouest de la péninsule de Bakassi, une zone riche en hydrocarbures et ayant fait l'objet d'un conflit entre le Cameroun et le Nigeria. Pour la Tribune Afrique, ces deux blocs ont respectivement une superficie de 7 000 et 19 000 km². Leur mise en valeur entre dans le cadre du mandat de la Société nationale de valoriser les ressources en hydrocarbures du domaine minier. Terminons avec l'inauguration d'une usine de profilés en aluminium dans la zone économique spéciale de Luanda-Bingo en Angola pour 40 millions de dollars, révèle l'agence Ecofin. Cette structure d'une superficie de 20 hectares est le fruit d'un partenariat entre le chinois City Construction et l'entreprise locale Bohai Aluminium Industries. Baptisée CITIC Aluminium Angola, la nouvelle société devrait produire annuellement environ 10 000 tonnes de profilés en aluminium utilisables dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Clé, bonsoir à tous.
Au Gabon, neveu remplace cousin à la tête des Panthères.
Oui, Patrice Neveu a été nommé pour 4 ans. Le technicien français remplace Daniel Cousin au poste de sélectionneur des Panthères. Il a déjà entraîné, entre autres, la Guinée entre 2004 et 2007, la République démocratique du Congo de 2008 à 2010 et la Mauritanie entre 2012 et 2014. Neveu était récemment l'entraîneur du Oroya AC, club guinéen de première division, qui l'a emmené en quart de finale de la Ligue des champions. Il a pour mission de construire une équipe nationale gabonaise compétitive et combative pour prétendre participer aux prochains rendez-vous continentaux et mondiaux. Le poste de directeur technique national est revenu à l'ancien joueur Raphaël Nzamba Nzamba. Il a également un contrat de 4 ans renouvelable.
Vive tension entre les supporters du Wydad et de l'Espérance.
Oui, l'Espérance sportive de Tunis a annoncé sur Twitter que ses supporters ayant fait le déplacement à Casablanca sont la cible de violence. Notre bus a été la cible de jets de pierre, a affirmé l'un des supporters dans des propos relayés par Shems FM. Un autre a assuré qu'ils ont été empêchés de sortir de l'hôtel. Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux clubs s'échangent des messages de violence. Le Wydad reçoit l'Espérance sportive de Tunis demain à Casablanca pour la finale aller de la Ligue des champions avant le match retour à Tunis la semaine prochaine.
Le Mondial 2022 au Qatar se jouera finalement à 32 équipes.
Et oui, la FIFA a décidé que la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne se jouera plus à 48 nations comme le voulait entre-temps l'instance mondiale. La FIFA avait inscrit le passage de 32 à 48 équipes dès 2022 à l'ordre du jour de son prochain congrès en juin à Paris, mais a indiqué que dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être mise en œuvre. Le projet se heurtait notamment à un obstacle géopolitique majeur avec le blocus imposé au Qatar par plusieurs pays voisins. Le Mondial 2022 conserve donc son format actuel avec 32 équipes.
Juan Fran quitte l'Atlético de Madrid.
Oui, après 8 saisons, le défenseur espagnol de 34 ans a fait ses adieux à l'Atlético Madrid après avoir refusé une prolongation de contrat de la part des Colchoneros. Formé au Real Madrid, Juan Fran était arrivé en janvier 2011 à l'Atlético en provenance d'Osasuna. Il a joué 355 matchs et marqué 6 buts avec le club madrilène. Juan Fran n'a pas dévoilé quel serait son avenir, mais la presse espagnole indique qu'il pourrait rejoindre le championnat japonais où évoluent ses compatriotes Andrés Iniesta et Fernando Torres.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Claire Morin-Jubour et Abdourahmane Diab toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le Cameroun veut pouvoir compter sur le développement du secteur de la transformation locale de l'huile de palme. C'est un secteur important pour l'économie du pays, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Tap.
Le gouvernement camerounais ne le cache pas. Le secteur de la transformation d'huile de palme rapporte à l'État plus de 100 milliards de francs CFA par an au travers de la commercialisation à l'extérieur des savons, des détergents, des huiles végétales ou encore des bougies fabriquées dans des usines appartenant aux Camerounais. Le gouvernement souhaite que ce secteur garde de telles performances économiques et veille au grain.
Pour moi, être satisfait que l'huile raffinée d'origine camerounaise est de bonne qualité.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation des oléagineux du Cameroun. Il a conduit récemment la mission d'évaluation des usines de transformation d'huile de palme dans les régions du littoral et de l'ouest.
Nous sommes allés voir l'état des stocks, voir si ces unités ont eu des aménagements nouveaux à l'effet de s'assurer que la demande qui induit pourra être satisfaite par l'offre. Au niveau de l'approvisionnement, nous sommes sans inquiétude. Au niveau de la qualité, nous sommes en train d'aller progressivement vers une amélioration qualitative des produits que les transformateurs sont en train d'offrir.
Selon les statistiques du ministère du Commerce, c'est au sein de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun que sont produits 95% des huiles végétales consommées localement. Mais la capacité nationale de production d'huile de palme brute reste très faible. Elle est de 370 000 tonnes, alors que la capacité de transformation est située à 1 057 000 tonnes par an.
Quand on est en situation de déficit, comme c'est le cas, il faut réguler.
Jacques Kemli, secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC.
Avant, chacun achetait en fonction de sa capacité financière. Aujourd'hui, on a dit toutes les entreprises emploient, quand bien même leur taille serait réduite. Il était donc loisible qu'on s'assurât que l'huile de palme qui est produite sera repartie de façon équitable.
Sur le marché et dans les rayons, les produits de la transformation locale de l'huile de palme ne laissent pas indifférents les consommateurs de Yaoundé.
Quand j'entre dans un supermarché, j'aime les savons de Marseille fabriqués au Cameroun. Je suis satisfait de la qualité de la norme et du prix.
La plupart des détergents que j'aime utiliser, c'est Saba parce que ça mousse plus que d'autres.
Le savon Azur, que j'utilise souvent comme savon du Cameroun.
Reste que ce secteur, l'un des rares à être bien organisé d'après les experts, fait face à une certaine concurrence déloyale.
Le véritable problème se pose au niveau des huiles raffinées non conformes.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation du secteur des oléagineux.
Dès lors que le jeu concurrentiel est faussé, dès lors que les huiles importées ne respectent pas la réglementation et sont donc non conformes, ça devient un danger. D'abord pour l'économie camerounaise et même pour la santé des populations.
La production nationale d'huile de palme brute dans la région du sud-ouest en zone anglophone reste une préoccupation majeure. Les deux grandes unités de production de cette région payent les conséquences de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme fait état d'une recrudescence des cas de violation des droits humains dans le pays. Les faits collectés et présentés dans le document couvrent une période de 8 mois, d'août 2018 à avril 2019, date des dernières manifestations contre le pouvoir. Yacouba Ouedraogo a joint maître Célestin Agbogan, il est président de la Ligue togolaise des droits de l'homme.
Les investigations nous ont permis de relever des cas d'assassinat et des tentatives d'assassinat. En tout, nous avons dénombré 5 morts, dont un mineur tué par balle et 2 autres également tués par balle. Et les 2 autres, c'est par coup de bastonnade, coup de matraque. Outre cela, il y a eu des blessés, dont plusieurs par balle. On note également des entraves à la liberté de manifestation où les autorités interdisent systématiquement les manifestations en flagrante violation de la loi. Il y a également des cas de torture dans les lieux de garde à vue. Ils ont été soumis à des procès inéquitables parce que le droit de la défense ne leur a pas été accordé. Il y a eu des exilés.
Qui sont les auteurs présumés de ces violations des droits de l'homme?
Bon, pour la plupart des cas, c'est nos forces de l'ordre et de sécurité et les militaires. Malheureusement, lorsqu'on organise des manifestations pacifiques, vous verrez dans les villes des jeeps, des militaires, qui sortaient pour semer la terreur. Nous avons constaté également que le pouvoir public s'appuie sur le pouvoir judiciaire pour régler leurs comptes politiques à ces citoyens-là qui réclament de meilleures conditions de gouvernance à travers les réformes politiques.
Est-ce que vous allez porter plainte?
Non, vous savez, nous avons fait des recommandations. Pour les cas de torture, nous avons spécialement demandé à ce qu'une enquête soit ouverte et que donc les auteurs-là soient recherchés et poursuivis conformément à la loi.
Quelles sont ces recommandations-là?
Ce qui se passe au Togo, c'est lié à une crise sociopolitique qui a trop duré. Entre-temps, la CDAO est intervenue. Malheureusement, la CDAO n'a pas su faire un travail professionnel pour que cette crise-là puisse prendre fin. Donc nous appelons à toute la communauté internationale pour qu'un travail plus sérieux soit fait.
Vous n'avez plus confiance à des structures sous-régionales comme la CDAO?
Nous, en tout cas, nous, à la Ligue des droits de l'homme, nous n'avons plus confiance à la CDAO parce que nous avons une institution sous-régionale qui a soumis à la classe politique une feuille de route. Cette feuille de route qui, si toute la ligne a été violée, malheureusement, la CDAO conclut qu'une élection qui a été organisée en violation de cette feuille de route conclut à la satisfaction et déclare que les élections ont été organisées à parfait respect de cette feuille de route-là qui a été violée. Nous doutons de la crédibilité de la CDAO.
Vous doutez de la CDAO, vous dites que la justice interne est instrumentalisée. Sur quoi ou sur qui comptez-vous pour cette enquête?
Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme qui a le statut de mécanisme de la prévention de la torture dans notre pays. Nous en avons déjà discuté même avec quelques autorités ministérielles. Il va de leur intérêt qu'une enquête crédible soit menée dans ce cas-là.
C'était Maître Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, joint à Lomé.
VOA Afrique, en direct de Washington. Retour sur le limogeage au Gabon du vice-président Pierre Claver. Maganga Moussavou et du ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement, Guy Bertrand Mapangou. Libreville n'a donné aucune explication sur cette décision du président Ali Bongo Ondimba. Mais d'aucuns la lient à la disparition des 350 containers de bois stockés au port de la capitale. Yacouba Ouedraogo a joint à Libreville l'analyste politique Barry Mbom.
Et son nom est apparu dans la liste des personnes qui ont été écartées du gouvernement et de la sphère étatique. Mais le motif, est-ce que c'est lié forcément à cette affaire de bois? On n'en sait rien, parce que le gouvernement n'a pas exactement communiqué sur les motifs du départ du vice-président de la République.
On sait que le vice-président, pendant la convalescence du président Ali Bongo, avait dit qu'il était disponible pour effectuer davantage de missions officielles. D'aucuns disent que cela n'aurait pas plu.
En réalité, on lit directement le départ du vice-président Maganga Moussavou à l'affaire du Kévasiro, dont ce bois précieux, qui est vraiment très très prisé et dont l'exploitation avait été interdite. Il se suppute qu'il aurait autorisé, mais je parle au conditionnel, il serait rentré dans les transactions de cette affaire et c'est la raison pour laquelle le président de la République l'a mis de côté.
On sait qu'en plus de lui, Guy Bertrand Mapangou a été limogé. On va rappeler qu'il était le ministre des Forêts et de l'Environnement. Est-ce qu'il a été clairement établi et qu'il est impliqué dans cette question de disparition de conteneurs de bois?
Le départ du ministre d'État survient au moment où son directeur de cabinet a été directement impliqué dans cette affaire. Son directeur de cabinet, semble-t-il, après audition du procureur de la République, aurait été directement impliqué. Mais il faut aussi préciser qu'à la suite de la dénonciation publique de cette affaire par le procureur de la République, le gouvernement a demandé à tous les ministres et à toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire de tirer les conclusions. À la suite de la note gouvernementale, le ministre d'État aux Eaux et Forêts a répondu en disant qu'il ne se sentait pas concerné. Et je crois que l'adresse qu'il a faite du point de vue des autorités a été très maladroite parce qu'il mettait encore le conditionnel dans une affaire que l'État décrétait être prouvée. Il disait par exemple que dans cette affaire supposée de détournement de bois.
On sait que sur les 353 conteneurs de bois disparus, il y a 200 qui ont été retrouvés cachés à différents endroits au port de Libreville. Qu'en est-il des 103 autres conteneurs?
Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'indication parce que le bois était sous main de justice. On sait par contre qu'il y a une vingtaine de conteneurs, 18 à peu près, qui auraient voyagé pour la Chine, mais on n'a pas une trace de la trentaine d'autres conteneurs qui forcément sont cachés quelque part dans la République ou dans le port.
Et donc, jusque-là, aucune explication officielle sur ce qui se passe par rapport à ces conteneurs qui ont disparu?
Jusque-là, à Libreville, on n'a aucune explication publication officielle parce que les enquêtes se poursuivent en réalité. On a décelé qu'il y avait des conteneurs ça et là dans certaines sociétés et dont les conteneurs ne sont pas stockés à un seul endroit. On en débusque par-ci, par-là. Peut-être que quelque part, les conteneurs se baladent entre Libreville et le reste du pays.
C'était joint à Libreville, l'analyste politique Barry Mbom.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À l'approche de l'élection de 2020 ici aux États-Unis, le président Donald Trump et ses alliés multiplient les affirmations selon lesquelles son prédécesseur, Barack Obama, aurait ordonné au FBI d'espionner sa campagne de 2016. C'est ce que le président appelle le Spygate, une expression devenue familière lors des rallyes de Donald Trump. C'est un récit de Morgan Garriek.
Tout au long de la campagne présidentielle 2016, Donald Trump appelait à une mobilisation contre sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Trois ans plus tard, le slogan a évolué. Mais après son investiture, le mandat de Trump a rapidement été entaché par l'enquête de Mueller sur l'ingérence russe dans sa campagne. Le rapport Mueller a conclu que l'équipe de Donald Trump n'avait pas coopéré avec la Russie pour s'immiscer dans les élections américaines. En revanche, il s'est gardé de déterminer si le président avait fait obstruction à la justice au cours de l'enquête, donnant ainsi aux démocrates un motif pour de nouvelles enquêtes. Depuis la publication du rapport Mueller, Trump dénonce ce qu'il qualifie de « Spygate », affirmant que l'administration Obama avait un espion dans sa campagne. Le « Spygate » est devenu un thème récurrent dans ses meetings, notamment en Pennsylvanie.
Maintenant, nous les tenons. Ils espionnaient. Ils espionnaient notre campagne.
La semaine dernière, le procureur général William Barr a ordonné un réexamen de la décision prise par le FBI en 2016 d'ouvrir une enquête de contre-espionnage sur la campagne de Trump.
Si nous sommes inquiets de l'influence étrangère, pour la même raison, nous devrions nous demander si des représentants du gouvernement ont abusé de leur pouvoir pour faire pencher la balance de leur côté. Je ne dis pas que c'est arrivé, mais je dis que nous devons vérifier cela.
Certains analystes estiment qu'il s'agit d'une stratégie de Trump visant à renforcer le soutien de son électorat. Elaine Carmack, du Brookings Institution, un organisme démocrate.
Ce que sa base aime chez lui et depuis le début, c'est qu'il est combatif face à la tradition. Il est juste combatif sans relâche. Alors oui, ils vont enquêter sur les enquêteurs et franchement, ça ne sera pas bon pour lui.
Pour Carmack, enquêter sur les enquêteurs pourrait révéler des informations qui pourraient discréditer le président. Mais Trump fait le pari que ces enquêtes saperont la crédibilité du rapport Mueller et de ses adversaires. Shannon Bo O'Brien enseigne la présidence américaine à l'Université du Texas à Austin.
Ce que sa base aime chez lui et depuis le début, c'est qu'il est combatif face à la tradition. Il est juste combatif sans relâche. Alors oui, ils vont enquêter sur les enquêteurs et franchement, ça ne sera pas bon pour lui.
Ce mois-ci, le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré qu'il ne considérait pas la surveillance approuvée par le tribunal comme de l'espionnage, ajoutant qu'il n'avait aucune preuve que le FBI avait illégalement mis en surveillance la campagne de Trump.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiro, à la console, Justin Twaits, à la présentation, Abdourahman Dia et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout de suite,